Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans une heure en série, le seul et unique 55 minutes chrono de la radio française pour débattre de l'actualité des séries et grâce à la vie nécessairement affûtée, parfois mordant mais jamais de mauvaise foi, j'y veille bien sûr, de nos deux chroniqueuses et de notre chroniqueur, tenter de vous recommander le meilleur de la série télé de la semaine. Au cours de ce 26e épisode de la 3e saison d'une heure en série, nous parlerons Occident colonialiste et racisme endémique avec Exterminer toutes ces brutes sur Arte, Guerre froide et espionne bouillonnante, vous avez vu un petit peu, ouais, quand même. Dans Au service du passé sur Netflix, j'ai un très bon auteur. Noblesse avariée et couple au bord de la crise de nerfs dans A Very British Scandal sur Salto.
Quel accent.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Vous êtes moqué de moi, Benoît Lagarde ?
Non, c'était mon accent. Non, c'était. Je trouvais que c'était vachement bien, là.
J'ai envie de dire, let's wait for yours. Attendons le vôtre, par exemple. Vous l'avez entendu déjà, mais on va commencer par lui, évidemment, parce que les garçons, il faut toujours que ça passe en premier. Benoît Lagarde, du 5-7 de Mathilde Ménoz, et évidemment, de Télématin.
Bonsoir à toutes et à tous.
Good evening, dear Benoît.
Je ne m'aventurerai pas avec mon accent du sud-ouest anglais.
Elle est plus et discrète, pourtant. Mais à tenter de la voir en débat, Nina Masson de France 24. Bonsoir, Nina.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver.
Ah, et nous donc. Et puis, Ava Kahn de French Mania, entre autres.
Salut.
Et c'est l'occasion de saluer la sortie du nouveau numéro de French Mania.
Et on n'est pas
3.
Peu fiers, absolument.
Et vous avez raison.
Il sortira le 8 mars en kiosque et en librairie. Et alors, on a un dossier là qui met à l'honneur 50 réalisatrices francophones. Elles ont moins de 40 ans, elles ont du talent. Elles sont très inspirantes. On a un grand entretien avec Sandrine Kiberlin également. Et puis on retrouve évidemment nos feuilletons, dont la grande histoire des séries françaises racontée par Xavier Le Herpeur. Et là, on va s'intéresser à la télé des années 2000.
Ouais, et c'est parce que c'est le 8 mars qu'il y a toutes ces femmes dans French Mania.
Entre autres. En tout cas, c'est une date symbolique et très belle. Ouais.
C'est une très bonne idée, histoire de rappeler peut-être à certains délégués généraux de certains festivals que oui, on peut tout à fait taper dans la parité pour sélectionner des films. Il y a bien assez de très bonnes réalisatrices, effectivement.
Et on vous en parle.
Et qui seront à l'honneur dans le prochain numéro de French Mania. Merci de défendre effectivement ce cinéma au féminin. C'est à partir d'images de fiction, de représentations picturales ou photographiques d'époque, de citations littéraires ou scientifiques, ainsi que des archives personnelles, que le cinéaste Raoul Peck remonte le cours de la colonisation européenne et américaine, celle qui vit des Blancs, décidée de leur prétendue suprématie raciale, inventant d'ailleurs au passage ce concept de race, et établissant à partir de cela, évidemment, une hiérarchie au sommet de laquelle les Blancs devaient par nature dominer les autres populations. Une plongée historique et sociologique dans ses conséquences toujours contemporaines, qui ont édifié des courants de pensée suprémacistes, hélas, toujours en vigueur. Une fresque sur la perte de notre humanité sacrifiée sur l'autel du profit hégémonique, rappelant aussi au passage le rôle et la responsabilité des États-Unis dans cet état de fait, fanatisme, exploitation, esclavage, conquête et mépris pour les étrangers, les cinq bases de ces politiques d'envahissement et d'asservissement, comme le rappelle Raoul Peck. Exterminer toutes ces brutes, titre emprunté à une citation extraite du livre de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, une série documentaire en 4 épisodes, partie disponible sur Arte TV jusqu'au 1er mai, que vous pouvez également trouver en DVD, une série où l'auteur décortique les actes, événements historiques et courants de pensée qui ont édifié le monde fracturé dans lequel nous vivons, démasquant derrière les vérités trop vite adoptées, ces pernicieux mensonges d'État qui ne servaient que la cause des Blancs.
Dans ce récit, trois mots résument toute l'histoire de l'humanité. Civilisation, colonisation, extermination. Ces mots traversent de part en part l'histoire de l'Occident, de même qu'ils pénètrent au cœur de l'histoire des États-Unis. Ce n'est pas, à vrai dire, une question de gagnant ou de perdant, de conquérant ou de conquis, ni même de colon ou de colonisé. Les forces à l'œuvre ici sont moins visibles que la violence armée, la lutte de classe ou les croisades politiques. Mais elles n'en sont pas moins puissantes.
Exterminer toutes ces brutes, signé donc par Raoul Peck, l'auteur entre autres brillant Je ne suis pas votre nègre, documentaire qui avait été récompensé par un César. La série a été écrite à plusieurs mains, Raoul Peck évidemment, mais également Sven Lindqvist, Michel Rolf Trouillot et Roxane Dunbar-Ortiz, avec une petite partie fictionnelle qui remonte quelques grands événements tenus un tout petit peu à l'écart du cinéma et de la mémoire officielle américaine, et dans laquelle on retrouve l'acteur Josh Hartnett. La presse est assez enthousiaste, à l'exception, je l'ai trouvé quand même, d'un journal, mais vous comprendrez très vite lequel. Le Monde salue cette fresque entre cauchemar et compassion. Le Figaro, un peu focus, est allé chercher un journaliste historien spécialiste de Napoléon, comme par hasard, qui juge la série événement, la considérant comme une lecture de l'histoire manichéenne et reflet de l'américanisation de la pensée en matière raciale et sociale. Voilà. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Ava.
Ben moi, je me range du côté de l'avis du Monde. Hein. Effectivement, c'est une fresque assez remarquable, je dois le dire. Une série composée en 4 heures, en forme d'essai documentaire qui mélange voilà, images d'archives, de fiction, d'animation. Dans ce récit, comme l'a dit le narrateur, il y a 3 mots qui résument l'histoire de l'humanité. On l'a entendu là dans l'extrait qui a été présenté. Civilisation, colonisation et extermination. Et on a là, je crois, le mobile, en fait, de ce documentaire, si je puis dire, qui est de déconstruire donc des siècles et des siècles d'histoire autocentrée sur les découvertes des conquérants blancs. Et Raoul Peck s'appuie, vous le disiez, sur des travaux d'historiens et d'historiennes très estimés. Donc la voix du narrateur qu'on a entendu là est très apaisée, mais en même temps, les mots disent la colère, ils disent le dégoût, ils disent la tristesse, et elle raconte et dénonce l'exploitation féroce, quoi, des autres peuples par les élites au pouvoir dans les pays occidentaux. Alors, il faut quand même prévenir, il y a beaucoup d'informations, ça donne parfois un peu le vertige, mais à raison, parce que le récit que fait Raoul Peck est justement vertigineux. Une femme d'une tribu indienne demande à un moment à un homme blanc armé à quelle espèce il appartient. Lui qui pille et qui vole des vies, et cet homme, joué justement par Josh Hartnett, rétorque d'un coup de feu. Et on a là un geste que les hommes vont répéter, en fait, tout au long de l'histoire de l'humanité, qui est en effet barbare. Et les barbares, bah, ce sont bien les suprémacistes, les fascistes et les nazis. Donc voilà, c'est pas évident à regarder. C'est parfois difficile, mais c'est passionnant. Le fond et la forme sont indissociables l'un de l'autre. Vraiment, ça, ils se nourrissent, quoi. Et Raoul Peck se sert, je trouve, à bon escient, à la fois, enfin, des outils du cinéma, quoi, pour capter notre attention et pour nous amener à réfléchir et à penser la paix qui, selon James Baldwin, ne peut aboutir que via une rédemption et une forme de réparation.
Benoît Lagan.
Alors moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Ava, projet qui ne manque pas d'ambition sur un thème important et qu'il était important en fait de réinventer toutes ces images, tous ces récits qui ont été en fait détruits, jetés aux orties par les Blancs qui n'ont pas voulu raconter toute cette histoire. Et donc que Raoul Peck prenne comme ça cette histoire et le raconte en 4 parties.
On a oublié de dire que Raoul Peck est haïtien, donc oui, il connaît quand même effectivement très très bien le double racisme à la fois occidental et américain.
Effectivement, et qu'il le fasse en utilisant différentes façons de raconter, je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup la façon dont il a de re-raconter la découverte de l'Amérique, par exemple, et comment il le rejoue à plusieurs reprises. Ça, je trouve ça intéressant. Malheureusement, moi, je suis un peu déçu.
Je sentais bien qu'il y avait à avoir un bémol.
Je suis un petit peu déçu parce que je n'ai pas compris pourquoi Raoul Peck racontait sa vie par petits bouts dans le documentaire. Parce que soit il le faisait de façon presque introductive, comme un petit aparté pour qu'on comprenne bien que d'où il parlait, et ça, je l'entends. En fait, je comprends pourquoi il le fait, mais sauf que je trouve que c'est dans le montage et dans la façon dont ça apparaît, c'est presque un poil gênant, je trouve. Voilà, c'est ce que. Et ensuite, sur les reconstitutions fictionnelles, Raoul Peck, c'est quand même un grand réalisateur de fiction et de séries, L'École du pouvoir, par exemple. Et j'ai trouvé que, du coup, quand ça commence et qu'on voit les offs du tournage de ces fictions, j'espérais revoir du grand Raoul Peck en termes de fiction. Et la partie fictionnelle, pareil, m'a un peu déçu. J'aurais aimé qu'il joue aussi sur la dimension légendaire. Parce que, par exemple, on nous parle de l'Amérique, etc. Mais on nous parle assez peu de la légende américaine autour du melting pot, par exemple. Et j'aurais aimé qu'en fait, sa fiction vienne vraiment faire de la pure fiction, rejoue en fait quelque chose qui aille encore plus loin dans cette dimension. C'était des bémols par rapport à un projet que je rappelle,
est
véritablement ambitieux et important et qu'il faut voir.
Là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, même si je respecte, moi je suis obligé, votre opinion, c'est que moi j'ai l'impression qu'il raconte aussi sa prise de conscience.
Complètement.
Aussi, un siècle où effectivement on a l'impression que les choses sont derrière nous et hélas, elles ne le sont tragiquement pas, et il raconte comment effectivement sa couleur de peau, il en a pris conscience, mais par le regard des autres. Enfin, moi j'ai aimé cette évolution, mais voilà, on a entendu votre... Non, c'est fini. vous avez cru que je vous rendais la parole, Benoît, mais vous croyez où, là? Namasson, maintenant.
Justement,
s'il vous plaît.
Il raconte aussi comment l'histoire lui a été racontée en tant qu'haïtien, et il s'est pas retrouvé dans cette histoire. Donc, je trouve que, effectivement, c'est intéressant d'inclure ces passages personnels. Moi, comme Ava, je ne suis pas du tout sortie indemne de ce film documentaire. C'est une œuvre coup de poing, inédite, tant sur la forme que sur le fond. Elle nous attrape, elle choque, elle indigne, elle nous force à regarder droit dans les yeux une violence qui est parfois insoutenable, avec des archives extrêmement dures. figures, des superpositions d'images justement sur la forme qui nous montrent à quel point le sang est toujours très frais. Je pense à ces mains coupées d'esclaves qui sont superposées à l'écran sur des monuments symboles de la richesse européenne. Donc c'est une œuvre radicale, extrêmement stimulante du point de vue intellectuel, ça il n'y a pas de doute là-dessus.
Quand il met en scène, la mise en scène de la photo justement des mains coupées, où on entendrait la voix du photographe qui dirait « mets la main plus haut » et tout ça, là subitement il y a un effet d'abîme qui est vertigineusement tragique et glauque.
Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est très éloquent du point de vue de la forme et du fond. La forme et le fond se rejoignent totalement, mais justement j'ai quand même quelques réserves sur la forme. On est bombardé d'images. Alors, c'est des archives, des dessins, des infographies, des films de famille, des extraits de classiques du cinéma, des animations, et ces images sont placées pêle-mêle sur le même plan, ce qui pose pour moi quand même plusieurs questions. Peut-on passer d'un film de famille à la Shoah, à une archive sur la Shoah, de la même manière qu'on passe d'un massacre à un autre, de l'anéantissement des cultures amérindiennes à l'extermination de 6 millions de juifs en passant par Hiroshima et Nagasaki? Peut-on en fait raconter tout cela de manière globale, comme si finalement ces crimes contre l'humanité n'étaient tous que des variations autour d'un même mal originel, à savoir pour Raoul Peck, le suprémacisme blanc? Ça nous est explicitement dit, hein. Raoul Peck dit « les mêmes règles s'appliquent, on ne fait que changer les joueurs ». Il aurait peut-être fallu approfondir un petit peu, prendre peut-être un peu plus de temps là-dessus, même si pour conclure, je dirais comme vous Benoît, qu'il faut saluer l'existence de ce récit et son ambition qui est vertigineuse et qui, je pense, n'a pas fini de nous questionner.
Grande série, tout feu, passionnante, sur laquelle il est très légitime d'avoir effectivement des réserves, mais que l'on vous recommande évidemment, ne serait-ce que pour continuer de faire entendre des voix depuis trop longtemps tuées et oubliées par l'histoire.
Me show them heroes, feel it. We are the anger and the hunger. Me show them heroes, feel it. We are the anger and the hunger.
Holy water, crying like the altar. In your desire, freedom from the
good for you.
You know that it's good. You know that it's good for you.
What should I hear?
would work your mouth against this magic of mine. It has been handed down in an unbroken line. The sky encloses the stars. I enclose magic. I enclose magic.
Quelle merveille, Made of Gold par Ibeyi et Passalieu, les Ibeyi, qui signifie jumelles en Yorumba. Ce sont deux sœurs cubaines révélées en 2014 avec le single River et qui reviennent en trio avec le rappeur gambien anglais Passalieu, une chanson scandée et dansante, sensuelle et gutturale qui évoque la reconnexion indispensable aux vérités parfois enfouies du passé. Un prochain album est à venir et on l'attend impatiemment.
France Inter. Série.
Et c'est le moment de la petite pause littéraire dans l'émission et je vous recommande, en rapport évidemment à la série documentaire de Rolpeg que nous venons d'évoquer, la découverte du Visage de Pierre de William Gardner Smith aux éditions Christian Bourgois. Est-il besoin de préciser que les excellentes éditions Christian Bourgois qui ont vraiment un catalogue formidable. Nous sommes à Paris au début des années 60, Siméon Noir américain débarque dans la capitale française, expérimentant pour la première fois de sa vie l'absence de toute forme de ségrégation liée à la couleur de sa peau. Comme Jess Baldwin ou Josephine Baker en témoignèrent également, l'auteur témoigne à travers son personnage de ce supposé Éden que représentait notre pays pour tous les Afro-Américains enfin autorisés à vivre une vie normale. Il tombe amoureux d'une très belle Polonaise qui rêve de devenir comédienne, rencontre d'autres exilés, fréquente les cafés sans en être exclu. Une vie de blanc, comme lui fait remarquer un pote arabe rencontré un soir dans un bar. À sa suite, Siméon va découvrir l'envers du décor et la manière insidieuse dont le racisme existe bel et bien à cette époque en France. Les événements d'Algérie ont lieu et les Arabes sont les ennemis de l'intérieur, molestés, passés à tabac par les forces de police, insultés dans la rue par les passants, parqués dans des immeubles vétustes du 18e arrondissement ou des bidonvilles sordides en périphérie de Paris. Jour après jour, Siméon se rend compte d'un quotidien traversé par une haine raciale qui n'a rien à envier, hélas, à celle éprouvée par ses frères noirs aux États-Unis, un envers du décor qui connaîtra son point de non-retour avec les événements du 17 octobre 1961, où une manifestation arabe pacifique s'achève dans le sang et la torture, une tragédie dont Siméon est le témoin. Alors que tous les romans de William Gardner Smith, auteur noir américain, ont été traduits en français, celui-ci, qui date de 1963, échappa comme par hasard à toute forme de parution sur notre territoire. On comprend aisément pourquoi, à travers un héros quasi autobiographique, Gardner Smith avait débarqué à Paris en 1951. L'écrivain rectifiait déjà à l'époque notre histoire officielle et témoignait d'un événement honteux pour notre République et censuré par les forces gouvernementales. Ce récit testimonial exhumé de l'oubli, enfin traduit, n'en est que plus indispensable, le Visage de Pierre de William Gardner Smith aux éditions Christian Bourgois. Dans les rues de Madrid, trois quidams sans histoire assassinent de sang-froid des personnes qu'elles ne connaissaient pas. Derrière ce coup de folie à répétition se cache, d'après la CIA, un terroriste de nouvelle génération. Mais si l'on se fie au mode opératoire de ces meurtres par personnes interposées et manipulation mentale, il est aisé de reconnaître la patte d'une ancienne et insaisissable tueuse du KGB surnommée la Murmure. Une implacable... Ne riez pas, j'essaie de garder mon sérieux. Une implacable matérielle dotée d'un surprenant pouvoir, ayant décidé de mettre un terme à sa funeste carrière en disparaissant des radars pour devenir une honnête mère au foyer, mère aimante d'une jeune patineuse venue dans la capitale espagnole pour une compétition. Oui, c'est un peu compliqué de mettre en place. Extirpée sans ménagement de sa retraite, notre héroïne va devoir reprendre du service et tenter, secondée par un ex-agent de la CIA et un hacker brillantissime, de découvrir qui se cache derrière ces meurtres à distance et surtout quelles en sont les motivations. Au service du passé, une série en 8 épisodes sur Netflix. Un peu de Alias, beaucoup de Nikita pour cette série d'action féminin, avec, vous l'aurez compris, de très nombreuses influences.
Non, 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 je vous en prie, Edouard !
On l'a surnommé le Murmure. 5 assassinats confirmés, des gens importants. Sauf qu'au moment de les exploiter, le Murmure s'est évanoui. C'est bien ça, Ania Petrova, alias le Murmure.
Non, écoutez, c'est un malentendu. Je ne m'appelle pas Ania.
C'est un plaisir, Ania. Quelqu'un a utilisé les mêmes méthodes que vous quand vous étiez le Murmure. La CIA a très envie de savoir qui c'est.
Si je décidais de refuser,
vous passeriez le reste de votre vie dans une prison de haute sécurité.
Vous, je ne vous aime pas.
Ça m'arrive souvent.
vous, je ne vous aime pas.
Non mais vous m'aidez pas. Au service du passé, une série donc signée Adam Glass, scénariste sur Esprit criminel et Supernatural, avec Margarita Leviava, une actrice russo-américaine que l'on avait vue dans The Deutsche et Blacklist. Benoît,
au service du passé, vous, je ne vous aime pas. Non, alors, non, quand je me suis retrouvé à regarder cette série, la première phrase qui m'est sortie de la tête, et du coup je l'ai balancée sur les réseaux, c'est cette série est surtout au service du navet, point d'interrogation, parce que vraiment, on est dans la mauvaise soupe algorithmique telle qu'on peut l'avoir grâce à ces plateformes qui nous proposent des œuvres sous influence, enfin surtout qui tentent de cocher plein de cases. Alors, si tu aimes la baston et le Madrid, l'Espagne érotisée de la Casa de Papel, tape 1. Tu aimes les séries d'espionnage totalement irréalistes, mais fun comme Alias ou pire comme Nikita, tape 2. Tu aimes les séries qui dénoncent la société patriarcale à la façon d'une corrida. Ouais, parce qu'on compare à un moment donné le méchant à un taureau. Tape 3. Si tu as des ados à la maison et que tu veux qu'ils regardent aussi une petite série avec des jeunes qui font du sport, tape 4. Tu aimes qu'on fasse des raccourcis de scénarios improbables, mais parce que tu sais que c'est un peu comme de la BD. Au passage, les auteurs de BD gueulaient contre cette forme de réplique de « Oh non, mais c'est comme de la BD !» Non, c'est surtout nul. Tu aimes The Americans, dont tu aimes les histoires d'agents du KGB, et tu aimes Dark Angel, donc parce qu'il y a des expériences bizarres, et que tu aimes aussi Manimal, parce que les transformations sont complètement cons. Eh ben, c'est pour toi. Merci Netflix.
Waouh.
J'attendais. Ah, ça y est, il se recule.
C'est magnifique.
Je vous rappelle les coulisses de l'émission, que Benoît est très, très en colère. Il pose son crayon, il prend appui sur la table et il se recule de 3 mètres. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais ça le calme.
Et en chute, comme on s'est passé, voilà. On s'en tape.
Mais n'empêche que c'était une vraie série effet miroir pour vous, quand même, cher
complètement.
Benoît.
Complètement.
Nina Masson, est-ce que vous avez vibré à cette série pseudo-féministe ?
Comme Benoît, moi je n'ai qu'un mot à dire sur la série, c'est passez votre chemin, il n'y a absolument rien à sauver, ni l'intrigue à laquelle on ne croit pas, ni les personnages qui sont hétéronormés et ridicules, ni même les dialogues qui sont absolument nullissimes.
On a eu quelques exemples dans la
On a eu les exemples de Benoît, effectivement. Alors quand on apprend qu'être un homme, c'est être fort et sans peur comme un taureau, hein,
ouais.
Secours, je vous
l'avais.
Je vous remets le contexte. Avec le plan sur le taureau, effectivement. les personnages féminins ne sont pas beaucoup plus développés. L'héroïne de la série passe d'une case à l'autre, celle d'une mère célibataire dépassée ou celle d'une super héroïne super belle, super bien foutue au super pouvoir. On est à la limite de la caricature à chaque fois. Et puis, il y a ce mélange des genres qui, pour moi, ne fonctionne pas avec ce côté SF et ces transformations physiques qui finissent par être grotesques, vraiment artificielles, en fait. À l'image du reste de la série, les rebondissements sont la plupart du temps bidons, les scènes d'action ennuyeuses. On attend que ça passe, quoi, assez douloureusement. C'est une série qui a le mérite d'être constante dans l'agacement qu'elle suscite d'épisode en épisode.
Alors, vraiment, c'est vrai.
Il faut souligner, il y a malgré tout une montée finale de tension, elle aussi assez stéréotypée, mais qui ne suffit pas du tout à rattraper la sauce. Et si l'histoire peut et va, en toute logique, se poursuivre dans une saison 2, il est difficile d'en voir la nécessité.
Voilà, je vous l'avais dit au début de l'émission, elle a l'air plus sage, Nina Masson, comme ça, avec ses papiers, ses notes. Mais elle, quand elle dégaine, elle dégaine. Ava, vous avez un jeu de mots sur passé, parce que là, pratiquement
pas
tout a été fait.
Mais en tout cas, je vais continuer à tirer sur l'ambulance, parce que visiblement, c'est le bon ton. Bah oui, la série n'est pas bonne, elle n'est pas renversante, alors qu'il y a justement des coups de pied retournés à la Vandame dès le premier épisode. Ça fait évidemment un peu penser, avec une certaine nostalgie, hein, Alias, on a envie de se binger l'intégralité de la série. Ou alors j'ai seulement vieilli, je ne sais pas, peut-être que ça se situe là
non,
aussi.
Non, vous ne vieillissez pas, vous êtes comme Delphine Seyrig dans Podane, une fée ne vieillit pas.
Je vous trouve un petit peu dur, parce que quand même, elle n'est pas inintéressante, cette héroïne qui est mère de famille, qu'on découvre d'abord discrète et craintive, alors qu'en réalité, elle sait se battre comme une championne. Alors oui, la première scène de combat est effectivement plus drôle qu'impressionnante, puisque Jenny s'empare de tout ce qu'elle trouve dans la pièce pour mettre une raclée à des agents de la CIA qui lui cherchent des noises. Donc c'est un parapluie rose, un rideau en dentelle. Donc voilà, des objets du quotidien, en fait, qu'elle détourne en arme de poing. Et c'est un peu le principe, hein, de toute la série, donc, qui nous dit que les apparences sont trompeuses, que sous le feu, il y a la glace, qu'une mère célibataire peut être aussi une guerrière, évidemment. Et vont se mêler, vous l'avez dit, à cette série d'espionnage, des éléments du fantastique. Et alors, franchement, c'est clair qu'on aurait pu s'en passer. Non pas que la série cherche à faire dans le crédible, mais je trouve qu'elle aurait gagné quand même à être une pure série d'espionnage. Cet arc science-fictionnel, on le retrouve dans tous les films de Marvel, où sont faites des expériences scientifiques comme ça sur des humains. Donc voilà, je passe mon tour. La mise en scène est très standard. Mais bon, le poids, elle n'est pas inefficace non plus. Le rythme,
elle est à trois caméras et son en table de montage. D'accord.
Ça se regarde, mais ça révolutionne pas le genre.
On est à ça du plaisir coupable, la Vaken.
Elle s'appelle le Murmure. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu vibrer, ce petit surnom.
Personne n'a cité à propos de cette mère de famille qui se transforme en espionne, la géniale, les deux font la paire.
Ah bah oui, Marsa, c'était beaucoup mieux au moins.
Ah bah on est bien d'accord avec l'immense Kate Jackson, voilà. Non mais attendez, quand même,
fallait bien
retrouvons les classiques. Bon bah puisque personne ne l'a fait, je place mon jeu de moi à ce moment-là, au service du dépassé, sur Netflix. Ouais, vous pouvez m'adresser vos félicitations.
Tu regarderas plus jamais le ciel, t'écouteras plus jamais le vent, tu diras plus la vie est belle, comme avant, comme avant. T'attends quelqu'un qui viendra plus, tu peux courir, tu seras déçu. On retrouve pas les années perdues, et la vie elle, elle continue. Sortiras plus par la fenêtre pour pas réveiller tes parents. Tu pourras plus jamais renaître comme avant, comme avant. T'attends quelqu'un qui viendra plus. Tu peux courir, tu seras déçu. On retrouve pas les années perdues et la vie elle, elle continue. Mais relax, tout roule. Tu verras. De temps qui presse, y aura moins de tendresse, de doux regards et de caresses. Mais relax, tout roule, tu verras, ouais, c'est cool. Relax, tout roule, tu verras, la vie sera cool. Comme avant, mais plus tout à fait.
Relax par le Noiseur, extrait du deuxième album de ce chanteur de 41 ans qui revisite l'univers de son adolescence, son amour pour le cinéma pour lequel il a régulièrement composé et la clarté d'une mélodie pop synthé qui semble d'emblée si familière. Nostalgie ironique et poignante traverse cette balade dédiée aux années perdues et à celles qui nous restent à conquérir.
France Inter. Une heure en série.
Et justement, les années qui passent, c'est un peu le sujet de votre effet miroir, cher Benoît, ce soir, puisque vous revenez sur une série culte qui a été rééditée en DVD. Ça existe encore, les DVD?
Eh oui.
C'est ce que vous m'aviez dit une fois.
Ben oui.
C'est sûr qu'un jour, je vous le renverrai. Et qui a beaucoup influencé, non pas le DVD, mais cette série, les autres séries familiales des années 80 jusqu'à nos jours. Vous revenez donc sur...
Le riche et le pauvre.
The rich and the poor, because I am bilingue.
Bravo. Exactement, réédité donc en DVD Blu-ray chez Elephant Film, Le Riche et le Pauvre a été diffusé pour la première fois aux États-Unis il y a tout juste 45 ans, donc entre février et mars 1976. Chez nous, elle arrive dans la foulée en 1977. Alors pour être tout à fait honnête, je n'avais gardé personnellement qu'un lointain souvenir de cette série. Quelques images, notamment celle du jeune Nick Nolte en boxeur, tout l'opposé de son frère, le gendre a priori idéal. Mais dans l'histoire de la télé américaine, cette mini-série d'une douzaine d'heures est souvent évoquée comme un tournant et comme une série qui a su cristalliser, dans le genre du mélodrame familial, les grandes mutations de l'immédiate après-guerre jusqu'aux années 70.
Alors, même si le titre a le mérite quand même d'être assez explicite sur le contenu de la série, je vais vous demander quand même de nous raconter un peu ce que raconte le riche et le pauvre, même si on a une petite idée.
C'est l'histoire de la famille Jordache, et plus particulièrement de deux frères, Tom et Rudy, à la sortie de la guerre. Deux frères qui n'ont en commun que leurs origines modestes, fils d'un boulanger d'origine allemande qui, après la Première Guerre, a migré aux États-Unis. Ce père, interprété avec beaucoup de justesse par le regretté Ed Asner, est très dur avec sa femme et ses deux fils. Cet homme marqué par les atrocités de la guerre a du mal non seulement à voir un de ses fils devenir une racaille, mais aussi de voir l'avenir de son petit commerce menacé d'extinction. La série suit en fait l'un, Rudy, Peter Strauss, qui est un étudiant brillant à l'avenir prometteur, et donc l'autre, Tom, Nick Nolte, bagarreur, qui a la fureur de vivre et qui doit, après une énième bêtise, fuir sa petite ville et ne cesse de se mettre dans des situations compliquées. Mais la série plus chorale ne suit pas que le destin des deux frères, du riche et du pauvre, puisqu'il est question aussi de Julie, la petite amie de Rudy, aide-soignante, qui s'occupe de ceux brisés par la guerre, mais qui rêve de Broadway, d'une vie fougueuse, et que son petit ami Rudy, bien trop sage pour elle, n'ose d'effleurer. Il y a donc toute la romance familiale, le mélodrame, mais abordé avec les moyens et le luxe de la mini-série des 70s. En réalité, le succès de la mini-série Le Riche et le Pauvre poussera NBC à commander une deuxième saison de 22 épisodes. En France, elle sera intitulée Les Héritiers, et cette saison 2 se concentrera uniquement sur le destin de Rudy dans le monde des affaires.
Bon, mais on est censé quand même parler d'effet miroir. Alors justement, quel effet miroir tend cette série ?
Eh bien, il y a dans Le Riche et le Pauvre un portrait du rêve américain et des désillusions, en fait. La série dépeint avec justesse l'Amérique des 30 glorieuses, et notamment celle de la fin des petits commerces au détriment des grands complexes commerciaux, et porte un regard sur la classe ouvrière ainsi que sur l'émergence des banlieues pavillonnaires. Par ailleurs, la trajectoire de Rudy va l'entraîner d'une entreprise florissante à une carrière en politique qui permet de raconter les dessous d'une Amérique dessinée selon les bons vouloirs du pouvoir économique et de sa consanguinité avec le monde politique. La preuve par cet extrait où Rudy bataille contre un certain Estep, patron de la société Tricorp, société plus que frauduleuse, l'occasion de montrer qu'après avoir été un chef d'entreprise soucieux de ses salariés, Rudy peut être un sénateur intègre. L'histoire se situe à la fin des années 70, mais la série passe en 1977, non loin de la chute d'un certain Nixon. Ceci explique peut-être cela.
C'est la chance de votre vie, mon cher Rudy. Une enquête sénatoriale bien conduite peut mener au sommet de la politique, comme l'affaire Alger Hiss pour M. Nixon.
Je n'ambitionne pas de suivre les traces de M. Nixon. Je me contenterai de faire goûter à Estep le menu de la prison. Ben, avez-vous pris une décision à propos de l'honorable sénateur de l'Oklahoma ?
Dillon est de très longue date membre de la commission.
Oui, mais qui touche 100 000 dollars par an en qualité de conseil juridique d'une société dépendant d'Estep.
Aucune loi ni aucune règle n'interdit à un sénateur ou à un élu local de travailler pour le compte d'une société privée, que je sache.
Oh, allons, je vous en prie, Ben. Vous parlez comme l'attaché de presse du cabinet Dillon. Cet élu national va devoir siéger dans une commission sénatoriale d'enquête dirigée contre son employeur. Vous ne croyez pas que c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts ?
Si vous avez des preuves, il est sûr que Dillon adoptera une attitude de prudence.
Et s'il veut prendre des initiatives, je dirai ce que j'en pense en public.
Bref, quand vous aurez fait le tour de Succession, jetez un œil sur Le Riche et le Pauvre. La série est dispo en DVD chez Elephant Film.
Merci beaucoup, cher Benoît, pour cet excellent effet miroir mémoriel et un peu nostalgique. Un effet miroir que l'on peut bien sûr réécouter en podcast. Vous êtes bien dans une heure en série ce soir sur France Inter avec Ava Cahen de French Mania, prochain numéro très rapidement en kiosque, Nina Masson de France 24 et Benoît Lagade de France Inter bien évidemment et de Télé Matin. Tout commence dans la rubrique mondaine avant de finir dans les pages des faits divers de caniveau. Un ascenseur de la désillusion sociale comme seuls les Anglais savent le dépeindre, inspiré d'une histoire vraie. Tout commence par les noces entre le duc d'Argyll et son épouse Margaret dans les années 60. Il a le titre, elle a l'argent et de par son père, riche homme puissant politique, un certain pouvoir. Il incarne la fin de race, la noblesse des Argentés, sûre de ses prérogatives et à laquelle rien ne doit être refusé. Elle est en revanche le symbole d'une femme moderne, émancipée, qui le rôle d'épouse tiroir-caisse d'un mari alcoolique et dépensier ne sied guère, surtout que tous ses investissements sont perdus d'avance à la mort du duc. C'est le fils de celui-ci qui héritera de tout. Commence alors la chronique d'une haine amoureuse où tous les coups vont être permis. A Very British Scandal, une série, mini-série en 3 épisodes disponible sur Salto. La chronique fielleuse et perverse des coulisses peu reluisantes de la haute société britannique où la cruauté est policière et où les bonnes manières aristocratiques n'empêchent nullement la plus putride bassesse d'esprit.
I know who you are. to be my duchess?
Yes. He's a married man, carrying on as if he isn't.
Ian Campbell, Duke of Argyll. Margaret Campbell, Duchess of Argyll.
I've read so much about you. I feel I know you. Do you?
Everything is about sex.
I like it very much. And I'm extremely good at it.
How many men have you got?
How many women have you got?
I present the Duke of Argyll's petition for divorce.
He doesn't care about affairs. The only thing he cares about is destroying me.
He doesn't get to divorce me. I get to divorce him.
Can you prove it?
Do you have the photograph? Because I do.
A Very British Scandal. Alors, c'est le deuxième volet d'une franchise, d'une vague franchise, amorcée avec A Very English Scandal, qui était sorti en 2018, que vous pouvez également voir sur Salto. Cette Very British Scandal est une création de Sarah Phelps, connue entre autres, et moi je l'adore, pour ses excellentes adaptations d'Agatha Christie pour la BBC, avec dans les deux rôles principaux Claire Foy et Paul Bettany, qui sont géniaux, monstres absolus de ce jeu de massacre à la petite cuillère d'argent. Pourquoi est-ce que j'ai envie de poser la question à Nina? Voilà. Très aristocratique dans ses manières, mais capable effectivement d'une langue parfois très fielleuse. Chère Nina, à vous.
Alors pour moi, c'est non seulement une grande série, mais c'est aussi une très grande série féministe, même si ça en est pas l'intention première. Déjà, vous l'avez dit, elle est écrite, réalisée et produite par des femmes, dont la formidable Sarah Phelps. Mais c'est surtout un extraordinaire, un merveilleux portrait de femme, celui d'une duchesse surnommée The Dirty Duchess, ou même The Blowjob Duchess. À vos dictionnaires.
Est-ce qu'on traduit blowjob? Je regarde ma réalisatrice, Marie-Annie, qui fait oui, oui. Alors on va dire c'est la duchesse de la pipe et je ne parle pas de l'objet pour fumer. Voilà. C'est difficile quand même sur France Inter. Pardon, Nina.
The Blowjob Duchess, donc en tout cas d'une femme immédiatement réduite à sa sexualité, réelle, fantasmée ou supposée. Et on voit très bien de quel côté se situe le tribunal médiatique pour lequel il est inconcevable qu'une femme d'un tel rang puisse avoir un tel appétit sexuel. À cet égard, je ne sais pas si les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. En tout cas, la mise en scène est impeccable, tout comme les dialogues aiguisés comme des lames. Je ne résiste pas à vous en partager un. Quand le duc réclame de l'argent à sa femme et se sent donc abaissé dans sa condition de duc, il lui reproche sa façon de jouer les duchesses avec, je cite, « mes couilles dans ton sac à main ». La duchesse de lui répondre, et la duchesse de lui répondre, heureusement, elles ne sont pas trop encombrantes.
Quel talent.
Non, mais franchement, celle-là, faut la.
Je
la garde pour plus tard. Ouais. Claire Foy qui incarne mais magistralement ces deux visages, hein, de la duchesse, à la fois sa toute puissance et de l'autre son immense vulnérabilité. Et justement, le récit n'épargne en rien les personnages. La duchesse n'est pas dépeinte en icône féministe. Elle n'est absolument pas réinventée. On le voit d'ailleurs. Elle ne pense finalement qu'à elle-même tout du long. La seule chose qu'elle revendique, c'est simplement sa liberté. Et c'est déjà pas mal, même si ça signifie qu'une photo d'elle nue avec un homme va circuler, être rendue publique dans tous les tabloïds britanniques.
Donc voilà, explique son surnom.
Voilà. Ce qui explique son surnom. Donc c'est peut-être pas le premier revenge porn de l'histoire, quoique faudra vérifier, mais c'est tout de même c'est remarquable de modernité.
L'autre Dirty Duchess à cette table, c'est obligatoirement Ava Cahen, qui a l'air folle de joie que je la surnomme de cette manière. Dear Ava.
Eh ben, je suis absolument d'accord avec Nina. C'est une série franchement remarquable et c'est un bonheur de retrouver Claire Foy qui a porté, hein, longtemps le masque lisse de la jeune Elizabeth dans The Crown, saison 1 et saison 2, et qui ici donc joue un personnage plutôt trouble, plutôt double, comme l'homme qu'elle va épouser et qui va la rendre duchesse, mais qui va aussi la rendre chèvre, hein, à force d'ambivalence et de cyclothymie. Voilà, je trouve le personnage de Margaret vraiment fascinant. On la découvre, tu le disais, un peu fille à papa, mal aimée par maman, convoitée par des hommes de fortune dont elle dit aimer la compagnie et les maisons. Elle a de la fourrure sur les épaules, elle est à la fois pleine d'assurance et de fragilité. Elle a d'ailleurs gardé, hein, des traces d'un bégaiement comme stigmate d'un vieux trauma. Et quant au duc, eh ben, il est impeccablement joué quand même par Paul Bettany, un aristo alcoolique et désargenté qui va effectivement se servir de Margaret comme d'un punching ball et comme d'une banque de prêt. Donc c'est un drame à la fois cruel et mordant qui dissèque avec beaucoup d'habileté, tu le disais, les valeurs étriquées de la société des années 50 et 60, de la haute société qui évidemment méprise, punit et excommunie les femmes infidèles, mais pas les hommes, par naissance gâtée. Ouais, c'est très illégalement mis en scène, très British indeed, dans la tonalité, mais aussi voilà, dans ce traitement à la fois tragique, pathétique et croustillant de cette affaire, on va pas se mentir.
Cher Benoît.
Alors, pour compléter, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, moi je me dis qu'heureusement que cette série, on la voit aujourd'hui et pas dans les années 80. Déjà dans les années 80, on aurait baptisé ça en France le titre et l'argent, pour reprendre les mots de votre résumé, et le générique de la série aurait été signé Herbert Léonard. Non, et du coup, on aurait surtout... Non, mais ça, c'était pour la mauvaise blague.
Vous avez pris quoi, ce soir?
Je ne sais pas. Mais du coup, ça aurait... On l'aurait surtout pas filmé du tout. Comme c'est filmé là. C'est là où je rejoins Nina sur la façon dont justement c'est raconté et mis en scène par des femmes qui du coup, on parle beaucoup de male gaze, female gaze, mais là typiquement c'est le bon exemple. C'est-à-dire que on aurait pu faire racoleur avec cette série. On ne l'est pas du tout. On est dans quelque chose qui est très très bien raconté et qui nous révèle quelque chose vraiment de ce que savent faire les Britanniques et de peut-être nous faire comprendre un petit peu au fond le paradoxe anglais. D'aimer toutes ces grandes familles aristocratiques, de les admirer et puis de les descendre au moindre faux pas. Et moi, je trouve que ça, la série le montre très très bien. Je regrette un petit peu, mais c'est parce que chaque fois qu'il y a que 3 épisodes, moi, surtout quand elles sont réussies comme celle-là, je suis très frustré. Et je trouve que ça manque juste de développement sur la machine médiatique. Elle est racontée, elle est montrée, on le comprend, bien sûr. Mais je trouve que j'aurais aimé voir comment la machine des tabloïds se met en place. Parce que c'est aussi une première par rapport à cette affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit les moindres faux pas d'un premier ministre qui fait des parties, ou comme on a pu voir il y a quelques années l'affaire Diana, ou comment ça a été traité par la presse, tout le début de toute cette histoire en fait est en germe avec ce duc et cette duchesse. Voilà, donc mis à part ce bémol, je trouve la série admirable, les comédiens parfaits, je trouve que la photographie est admirable, Claire Foy elle a jamais été aussi bien éclairée, je trouve que même dans The Crown, et pourtant c'est du niveau, ils n'avaient pas réussi aussi haut la mise en lumière de ces personnages, donc vraiment c'est une très grande série.
On a encore quelques minutes, on peut dire un mot sur la précédente série, entre guillemets, Very English Scandal, et qui était avec Hugh Grant, et qui racontait effectivement les déboires homosexuels d'un député très hétérosexuel, normalement en façade, à qui son amant avait intenté un procès puisque les promesses n'avaient pas été tenues, non pas au lit, mais en matière d'élévation sociale. Et je trouve que ce qu'il y a très fort dans ces deux séries, c'est pas simplement l'attrait du scandale, effectivement, le côté caniveau, c'est de raconter comment le système britannique de caste, quand même, qui est très fort encore dans les années 60, puisque ce scandale précédent également se déroulait à la même époque, vraiment ne peut obtenir que ce genre de faits divers, c'est-à-dire extrêmement huppé, extrêmement fielleux. Vous avez toutes et tous très bien décrit à la fois la fourrure, à la fois l'élégance et en même temps la violence. Et ça rappelle, ça raconte ça comme elle le fait d'ailleurs chez Agatha Christie, c'est vraiment une espèce de rouage social, de caste, la noblesse, le prolétariat, l'élévation, le fric. Et elle en fait vraiment une série sur l'Angleterre. On pourrait pas avoir la même chose en France, ou en tout cas on ne raconterait pas la même manière, de la même chose, le même contenu. Et je trouve que c'est vraiment ça aussi qui fait l'intérêt de cette série. D'ailleurs, on annonce une série 3.
Oui, mais parce que, en fait, c'est ça la grande force de la télévision britannique, c'est que dans sa culture documentaire et fictionnelle, elle arrive à raconter par la fiction tout ce que le documentaire ne pourra jamais raconter.
Mais on se souvient qu'à la même époque, la BBC avait fait un documentaire sur la famille royale, que la famille royale avait détesté, justement. Et on a l'impression que Sarah Phelps, ça sent en mémoire, comme si elle faisait la série qu'on aurait pu faire à l'époque, fictionnée, mais documentaire, sur effectivement les coulisses d'un monde qui doit nécessairement s'abattre à un moment de lui-même, et qui d'ailleurs, effectivement, s'autodétruit parfaitement bien. Donc j'ai l'impression que je résume les 4 avis de cette table. C'est une série absolument formidable. A Very British Scandal pour le scandale du duc d'Argyll, mais également A Very English Scandal, toutes les deux disponibles sur Salto, pour se dire que finalement, on n'est pas si mal en France.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My
children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
On ne les reconnaît pas nécessairement en écoutant la chanson très douce comme ça, mais ce sont les Rolling Stones qui interprètent cette chanson.
Ah, j'ai cru que c'était la bande à Basile.
Mon Dieu.
Je ne sais pas ce que
je vais essayer de me reprendre. Merci beaucoup de cette intervention. Benoît Lagane. Bon, bah, Mishka Assayas peut dormir tranquille. Sa place n'est pas menacée par Benoît Lagane. Nous sommes en novembre 1963, enfermés dans leur cuisine de leur appartement londonien par leur manager qui a juré de ne les libérer que contre une nouvelle chanson. Et je vais peut-être faire la même chose avec vous. Keith Richards et Mick Jagger composent cette balade en quelques heures. Ah, bah voilà. Hein, sous l'effet de la menace, subitement. Les artistes ils s'y mettent. Hein. La chanson est d'abord proposée à la toute jeune Marianne Faithfull, qui n'a alors que 17 ans. Je vous invite à écouter d'ailleurs la version de Marianne Faithfull. On ne la reconnaît pas non plus. Hein. C'est pas l'époque Françoise Verny, on va dire. C'est un immense succès, évidemment, ce qui poussera bah ouais, les mecs, évidemment, les Rolling Stones, à se dire, bah, il y a peut-être du fric à faire, et du coup, ils vont inscrire la chanson à leur répertoire en 1965. Bah, c'est magnifique aussi.
France Inter. Série.
Et c'est l'heure d'un confortable plateau télé. J'évite toujours de dire ça parce que sinon vous allez prendre des heures pour nous raconter vos séries de choix. Et nous allons commencer. Alors, on n'est pas très très loin de British Scandal, mais version américaine et rien plus trash avec Ava. Pam and Tony sur Disney+.
Exactement, donc Very American Scandal, hein, du Polaroid olé olé à la sextape en VHS. Donc j'avais vu les quatre premiers épisodes
que
de cette... C'est terrifiant, hein. Bon, j'ai vu les quatre premiers épisodes de cette mini-série sulfureuse qui en compte 8, qui est produite entre autres par le comédien Seth Rogen. Et on revient donc sur l'histoire de la sextape de Pamela Anderson et de son compagnon de l'époque, Tommy Lee, rockstar percé, tatoué, fou d'amour de sa Pamela, qui érige, pardon, au rang de déesse. Mais si Tommy, dans la série, est un petit chaton avec Pam, avec les ouvriers qui retapent sa villa californienne, il est beaucoup moins tendre. Et donc, la série va nous raconter l'histoire d'une revanche. Une revenge, là aussi un revenge porn. Celle d'un ouvrier sur un millionnaire qui l'a humilié et viré de son propre chantier. Mais elle fait aussi, cette série, donc le portrait d'une victime, Pamela Anderson, objectivée des années durant et évidemment meurtrie par ce scandale dont elle se serait bien passée et qui a nuit à sa carrière. Donc, outre les qualités artistiques et esthétiques de la série et la performance mais exceptionnelle des acteurs et des actrices, et malgré le fait que le personnage de Tommy soit représenté de manière un peu trop cool à mon goût, la série est un véritable objet pop qui représente les années 90 à la fois dans ce qu'elles ont de plus flamboyant, de déjanté et de plus dégueulasse. Non, c'était clairement pas mieux avant et c'est Pamela Anderson personne qui vous le dit, dans cette série qui est une tragicomédie, dans laquelle j'ai pas pu m'empêcher de voir une critique du sexisme ordinaire. C'est un poil vulgaire, mais c'est quand même de l'entertainment, comme disent les Américains, mais ça sonne pas creux, c'est à voir sur Disney+.
Eh bien, très bien vendu, merci beaucoup Ava, Pam, Anthony. On continue dans les séries féministes, en tout cas, qui ont un vrai message féministe à déployer avec Euphoria. la série donc sur OCS que Nina Masson pour la saison 2 va défendre.
Voilà, on reste aux États-Unis. Je pense que personne n'est passé à côté de cette série, mais sait-on jamais, c'est mon coup de cœur. Donc je vous la recommande chaudement. Donc la saison 2 d'Euphoria sur OCS, incontournable série américaine sur la fureur de vivre adolescente. Franchement, selon moi, rarement une série aura aussi bien filmé cette jeunesse et surtout la surcharge de désir qui va parfois avec. Donc je le rappelle, c'est l'histoire de Rue, une ado de 17 ans incarnée par Zendaya, l'incontournable Zendaya, qui s'anesthésie dans la drogue après avoir perdu son père. Autour d'elle gravitent des personnages qui auraient chacun d'eux mérité une série à eux seuls. On ne parle pas uniquement de la drogue, ils ne sont pas tous drogués, ils ont chacun leur histoire et justement cette histoire est développée dans la saison 2 bien plus que dans la saison 1. Et Sam Levinson, le créateur de cette série, nous plonge la tête la première dans ce chaos sensoriel, une surcharge de chair, de couleurs, de lumière, pour sublimer en quelque sorte les excès d'une jeunesse aussi fracassée que déboussolée. C'est soutenu par une bande-son extraordinaire, sans surprise, qui est rendue possible par le rappeur Drake, qui produit la série. Donc voilà, si vous voulez planer sans prendre un gramme d'alcool ni un gramme de drogue, vous pouvez toujours regarder Euphoria sur OCS, un nouvel épisode tous les lundis.
Merci beaucoup Nina pour cet excellent conseil et j'allais dire cette transition à propos, pas un gramme d'alcool, pas un gramme de drogue, Benoît Lagarde. Par exemple, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je m'en veux évidemment, je me frappe la main, mais pendant que je le fais, vous allez nous parler de All Americans, qui est disponible sur Salto.
Effectivement, un autre genre de teen series, les 4 premières saisons de All Americans sont disponibles donc sur Salto. La série idéale pendant ces vacances, si vous avez des ados à la maison, qu'ils aiment le sport, l'univers un peu gangsta et le soap opéra. Oui, oui, tout ça. Cette série cartonne au point d'avoir même droit à un spin-off, une série dérivée disponible depuis cette semaine sur Salto également. Alors ça raconte la vie de Spencer James, lycéen et brillant footballeur afro-américain, football US hein, évidemment, il se rêve en footballeur pro, mais voilà, il vit dans une banlieue populaire et il est dans un lycée public. Repéré par un coach qui cache 2-3 secrets, ce dernier réussit à délocaliser Spencer à Beverly Hills. All American, c'est donc le choc des cultures façon Prince de Bel-Air, mais à la sauce Gossip Girl, vous voyez, du drama, du sport, des amours, des tensions, mais toutefois inspiré d'une histoire vraie. Celle d'un certain Spencer Paisinger, joueur de football américain engagé en 2011 aux Giants de New York pour jouer en Ligue nationale. La série, bien évidemment, nous fait penser au vieux Beverly Hills ou Melrose Place de l'époque, mélangé à un petit peu de Newport Beach, et qui traite malgré tout de cette question, la lutte des classes au sein d'un lycée, la description d'une jeunesse huppée, la dureté du combat pour celui qui vient des quartiers défavorisés de cette Amérique afro-américaine d'en bas et qui, par le sport, va peut-être pouvoir se faire une place. La série, au passage, propose quand même de bons moments de sport et nous tient en haleine. C'est très grand public, il y a 4 saisons pour All Americans, et donc, depuis cette semaine, mais j'ai pas encore vu All American Homecoming, qui est disponible sur Salto 24 heures après les États-Unis. Et là, on suit l'histoire de Simone, jeune joueuse de tennis, et de Damon, qui se fait un nom sur un terrain de baseball.
Merci beaucoup, Benoît, All American sur Salto. Et merci à vous trois, sans vous être concertés, d'avoir raconté à travers 3 séries un certain portrait de l'Amérique contemporaine. Et voilà. Et on sait que la série, c'est aussi un effet miroir sociétal. En tout cas, mille merci de nous avoir accompagnés au cours de ce nouvel épisode d'une heure en série. Merci Ava, merci Nina et merci Benoît, merci une fois de plus à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. Nous vous avons recommandé ou pas Exterminer toutes ces brutes, oui. Service du passé sur Netflix, non. Et Very British Scandal sur Salto, oui. La semaine prochaine, nous évoquerons Bête Noire sur Polar Plus, Culbut sur Arte et All of Us Are Dead sur Netflix. Retrouvez Jérôme Garcin, toujours fringant, demain soir à 20h pour un Masque et la Plume spécial théâtre. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast. Il y a un site internet, vous nous envoyez du courrier, des conseils, des séries qu'on a oublié de traiter. Le compte Instagram est également une manière pour vous de nous suivre et de nous parler. L'émission a été réalisée par Marie-Annick Rimbaud, évidemment, nul autre que Marie-Annick. La programmation musicale assurée par Valentine Chedbouane. J'ai préparé cette émission avec Amel Caldi et à la technique ce soir, le très sérifile Ludovic Assolo.